Vous écoutez France Culture.
7h42.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
17,9% au présidentiel de 2012, 11 mairies au municipal de mars 2014, 25% aux élections européennes du mois de mai, 2 sénateurs élus en septembre. On le sait donc, le Front National monte. Pour les prochaines élections, les départementales qui se tiendront les 22 et 29 mars prochains, les sondages donnent le Front National en tête des intentions de vote. Le Front National dépasserait ainsi les 30% et Marine Le Pen présente son parti désormais comme le premier parti de France. Et pour le Premier ministre Emmanuel Valls, le Front National pourrait même remporter l'élection présidentielle de 2017. Alors cette montée du Front National de plus en plus évidente, comment la comprendre, l'analyser, entre vote protestataire ou d'adhésion, entre vote anti-immigration ou vote économique et social, comment expliquer cette montée? C'est la question que se pose le numéro du journal de cette semaine, le journal Le 1, vous savez, celui qui se plie, se déplie, se replie, se déplie, Le 1 de cette semaine d'Éric Fautorino, avec un numéro intitulé « Front National, pourquoi ils montent ?» Poète, journaliste, chercheur et expert proposent dans ce numéro leur regard sur cette question. L'occasion donc pour les matins de s'interroger avec eux aujourd'hui sur cette question. Le Front National est-il vraiment aujourd'hui aux portes du pouvoir? Peut-il gouverner? Qui sont les électeurs de Marine Le Pen et par quoi leur vote est-il motivé? Pour en parler, nous recevons Nona Mayer. Bonjour Nona Mayer.
Bonjour.
Politologue, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre d'études européennes de Sciences Po. Et dans le 1 de cette semaine, vous avez écrit un article sur notamment les femmes et le Front National que vous avez appelé « Quand les femmes s'y mettent ». Et vous avez aussi mené récemment avec Cécile Braconnier une enquête sur la sociologie politique des précaires qui paraîtra dans quelques jours aux presses de Sciences Po, Les Inaudibles. Et puis avec vous, Hervé Lebras. Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Démographe, directeur émérite, dit-on aujourd'hui, à l'Institut National d'Études Démographiques, l'auteur d'un atlas des inégalités, que l'on connaît, paru aux éditions Autrement en 2014. Et pour le 1 de cette semaine, vous avez établi les cartes qui montrent le lien entre votre frontiste et inégalité. Première question, avant de rentrer plus avant dans les cartes, puisque nous aurons du temps, y compris avec Brice Couturier tout à l'heure. Selon vous, la formule est-elle un peu rapide? Est-elle exacte? Reflète-t-elle la réalité? Le Front National est-il, guillemets, aux portes du pouvoir? Hervé Lebras.
Non, je ne pense pas, parce que même avec 30%, c'est pas la majorité, heureusement. Simplement, ça va perturber les alliances possibles. Qu'on se souvienne, c'était au régional juste avant 2000, on a eu un certain nombre d'élus de droite. Je me souviens des affaires avec Charles Millon, ou avec Jean-Pierre Soisson, qui ont passé des alliances avec le Front National. C'est seulement à ce prix-là qu'il parviendra, non pas complètement au pouvoir, mais assez largement au pouvoir. Donc, c'est pas non plus un raz-de-marée. Ce qui est très inquiétant, je trouve, dans sa progression, c'est qu'elle avait été entièrement freinée entre 2002 et 2012. Quand on compare les premiers tours de Jean-Marie Le Pen plus Maigret en 2002 au score de Marine Le Pen en 2012, il y a un léger recul, il n'y a pas du tout l'avancée qu'on a parfois décrite, mais maintenant c'est une situation tout à fait différente avec ce qui s'est produit dans les fonds de deux dernières années. Il y a une transformation très forte qui est au fond le sujet de nos papiers, à Nona Mayer comme à moi.
Alors ça c'était la réponse du démographe, du géographe, on va dire, Hervé Lebras, la réponse de la politologue Nona Mayer. Le Front National est-il aux portes du pouvoir?
On est encore loin de 2017 et il y a encore un certain nombre...
Loin,
c'est... Oui, c'est demain.
C'est demain.
Mais quand même, il y a une dynamique électorale qui est incontestable. Et elle ne date pas d'hier. Elle commence dès que Marine Le Pen arrive à la tête du parti en 2011. Si on regarde les courbes de popularité, c'est à ce moment-là que sa popularité éclate et que celle du parti le fait aussi. Elle atteint des niveaux que son père n'avait jamais atteints. Et déjà en 2011, au cantonal... Elle a 15,1%, donc il y a une transformation qui est très nette. Mais il y a deux ou trois points qui font encore résistance. D'abord, le parti n'est pas encore perçu par la très grande majorité des Français comme un parti capable de gouverner. Malgré tous ses efforts, s'entourer d'un entourage de technocrates, d'universitaires, c'est pas encore là. C'est à peu près 36%. Et ça reste quand même un parti perçu, malgré la dédiabolisation, pas tout à fait comme les autres. Le dernier baromètre sur l'image du Front National, 54% des Français y voient un danger pour la démocratie. Donc il y a encore quelques obstacles sur la route.
Comment percevez-vous aujourd'hui la position du Premier ministre Manuel Valls, qui déclarait sur Europe 1 « J'ai peur pour mon pays, j'ai peur qu'il se fracasse contre le Front National, j'en appelle à un réveil des consciences. »
Hervé Lebrun. J'ai très mal perçu, et je crois que beaucoup sont comme moi, c'est-à-dire je l'ai perçu comme un aveu de faiblesse, à un moment où au contraire... en tant que parti socialiste, il doit faire rempart et donc il doit expliquer comment il fera rempart. Je ne trouve pas que ça soit de bonne politique simplement de dire je m'oppose à mes adversaires, surtout quand on est au pouvoir. Donc je crois que ça aura l'effet inverse de ce qu'il espérait. Mais on est entré dans une période où les stratégies politiques sont de plus en plus des stratégies internes aux partis et non plus des stratégies entre partis.
Mais comment avez-vous perçu en tant qu'intellectuel, chercheur, le fait que le 5 mars dernier, Manuel Valls a appelé à la mobilisation des intellectuels? Où sont Nona Mayer? Alors, il ne disait pas ça comme ça, mais où sont les intellectuels? Où sont les grandes consciences de ce pays? Les hommes, les femmes de culture qui doivent monter eux aussi au créneau?
Là, je peux en dire un mot aussi.
Hervé Lebrun.
Non, je laisserai Nona Mayer, mais là on nous raconte des bobards. Il est très clair que le Parti socialiste s'est coupé des intellectuels avec Hollande. Je me souviens, au moment où Hollande est arrivé à la tête du PS, donc ça ne remonte pas à aujourd'hui ou hier, mais à plus d'une dizaine d'années, il y avait quelque chose de très vivant qui s'appelait le groupe des experts, où hommes politiques et intellectuels, ou bien je dirais intellectuels n'est pas un très bon mot, personnalités des sciences sociales et des sciences tout court se croisaient. Eh bien, dans la semaine qui a suivi l'installation de Hollande-Rutschel-Ferrino, ce groupe des experts a été dissous. Et si vous voulez, regardez même qui reçoit Hollande, reçoit...
Souvenez-vous, il y a des exemples dans l'histoire. Le matin de Paris, qui avait fait la campagne de François Mitterrand, est mort de sa belle mort
Mitterrand était au centre des intellectuels. Il était entouré d'intellectuels. Mais là, je vois... Hollande reçoit par exemple, je crois il y a deux jours, Joe Stark.
Vous avez du boulot encore, Hervé Lebrun.
Bon, et donc c'est quand même un peu, je veux dire, alors qu'il a remis plusieurs fois un entretien avec Jean Tirole, le prix Nobel français d'économie. Donc là, c'est trop facile d'accuser les intellectuels ou les scientifiques. Il y a eu un désintérêt des politiques actuelles de Hollande à Valls pour le monde intellectuel et le monde scientifique. Je suis obligé de le dire.
Nona Mayer.
Moi, je pense que d'abord, on a fait des centaines de notes, d'articles, de rapports, et qu'il n'y a qu'à les lire. Il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites depuis très longtemps. Quand même, on travaille sur le Front National depuis la fin des années 80.
C'est votre dada, si j'ose dire.
Il se trouve que quand ma thèse portait sur les petits commerçants et la boutique, et là, déjà, dans les années 80, on disait le prototype de l'électeur du Front National, c'est le petit patron, etc., ce qui n'était d'ailleurs pas vrai à l'époque. Mais donc, il y a une masse de travaux. On sait ce qu'est le Front National. Deuxièmement, intellectuel, on est des chercheurs. Oui. On ramène des faits, on les analyse. Et enfin, il ne faut pas croire que c'est nous qui sommes les leaders d'opinion. Les électeurs et les électrices, ils vont voter en fonction des actes, en fonction du bilan de la gauche au pouvoir.
Alors, est-ce que ça veut dire que par moment, vous vous dites que vos études, vos notes diverses et variées, souvent pour vos étudiants ou les pouvoirs politiques, enfin en tout cas publiées, toutes vos publications, est-ce que tout ça n'a servi à rien?
Je pense que le Front National les lit de très près. Et il réagit souvent parce que il a constaté quels étaient ses points forts et ses points faibles. Mais souvent, du côté du gouvernement, on a le sentiment de parler dans le vide.
Hervé Lebrun.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. On a le sentiment que la communication, doit-on le dire ici, a remplacé la réflexion. Et donc, on vit avec des slogans et qu'on ne maîtrise même plus le vocabulaire. Dans les semaines récentes, l'utilisation du mot apartheid, bien sûr, je vois le but poursuivi par son utilisation, mais le langage, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement fragile, qui charrie énormément de choses derrière lui. Et c'est une grande maladresse d'employer les mots à contresens. Même chose quand j'ai entendu François Hollande parler des Français de souche. Depuis longtemps, on cherche à expliquer que ça n'a pas de sens, qu'en plus de ça, ça a un passé plus glorieux, le mot Français de souche, et que c'est entré dans des questions ethniques. Or, quelques semaines avant, dans sa déclaration, je crois que c'était même dans sa conférence de presse, François Hollande avait dit qu'il était hostile aux statistiques ethniques. Et voilà qu'il emploie un terme utilisé par les partisans des statistiques ethniques. Donc, sans entrer dans ce débat-là, on voit qu'il ne maîtrise pas son langage, ce que je trouve assez terrible.
Yona Maillard.
Et juste sur la phrase du Premier ministre, je pense que c'est dangereux de jouer sur les peurs, de dire que le Front National est aux portes du pouvoir. Non, c'est plus compliqué. On sait, toutes les expériences de psychologie montrent que quand on utilise la peur, électeurs et électrices réfléchissent et se départissent de leur vote habituel. Et enfin, ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut mobiliser son camp, c'est ce qu'il espère. Ça peut en convaincre d'autres, c'est même pas la peine d'aller voter parce que les jeux sont faits. Et ça peut remobiliser les électeurs et les électrices du Front National.
Alors, les électeurs et les électrices, on dit qu'il y a notamment les jeunes qui sont de plus en plus sensibles au discours du Front National. La petite équipe des matins a rencontré Pierre et Gaspard, puisqu'on a beaucoup parlé de diabolisation du Front National ou de sa normalisation. Par exemple, le Front National a-t-il autant intérêt que cela à devenir un parti comme les autres et comme ça d'avoir les avantages de sa fameuse dédiabolisation? Écoutez, l'avis de Gaspard, il a 21 ans, il est désormais sympathisant du Front National et il est au micro d'Antoine Beauchamp.
Non, il n'y a aucun intérêt à être un parti normal. Ce qui fait sa force, c'est que c'est l'outsider en fait. Mais par normal, je pense que ce dont le Front National a besoin de normal, c'est peut-être ses militants qui ont besoin de parfois d'être plus ouverts à l'extérieur. Comme j'ai dit, c'est un microcosme, mais en même temps, ils sont stigmatisés, ils sont marginalisés, donc ça leur donne pas envie d'aller avouer en public qu'ils votent FN. Et malheureusement, je pense qu'en vrai, il faut lutter contre ça et soi-même aller dire volontiers à n'importe qui qu'on vote FN, et c'est ce que je fais. Et j'ai aucun problème dans ma faculté qui est pourtant pas réputée être à droite. Voilà, il y a aussi une manière d'en parler et je pense que c'est là que le FN doit se normaliser.
Voilà, Gaspard, étudiant à la Sorbonne. Écoutez cette fois Pierre, jeune frontiste, interrogé par Amélie Perrault. Le vote du Front National, selon lui, est donc lié aux questions surtout et d'abord identitaires et d'immigration.
Aujourd'hui, les gens qui votent Front National, c'est essentiellement pour l'immigration et pour la protection de leur mode de vie, quoi. Et je pense que le livre de Zemmour en atteste bien. Le livre de Zemmour qui décrit pourquoi beaucoup de Français ne se retrouvent plus dans le pays qui est le leur actuellement. Pour moi, son succès fait écho justement à ce sentiment d'étrangeté qu'ont plein de Français dans leur pays aujourd'hui. Quand vous prenez la ligne 13, quand vous allez simplement dans une rue de la banlieue de Lille ou de Paris ou de n'importe où, vous vous sentez plus chez vous et vous avez l'impression d'être sur un autre continent. Et ça, c'est à mon avis un des éléments essentiels du vote Front National. Et il n'y a pas que ça, mais il ne faut pas l'oublier.
Voilà, donc Pierre au micro de Amélie Perrault. Il rejoint ainsi Pierre ou Gaspard, au fond, les idées que défend Renaud Camus, que publie Le 1 sur la question de la peur et la menace du grand remplacement défendu par Renaud Camus, qui oppose les anti-remplacistes aux remplacistes, Hervé Lebrun. Renaud Camus, d'ailleurs, qui, dans cet article, dit « Pourquoi le Front National progresse-t-il en France ?» Il y répond, on pourrait d'ailleurs se demander « Pourquoi il ne progresse pas davantage et surtout pourquoi il n'a pas progressé plus vite et plus efficacement depuis 35 ans, Hervé Lebrun.
D'ailleurs, une des réponses simples et dans la logique de Renaud Camus, c'est que la France est de plus en plus mixte. C'est-à-dire que le nombre de couples mixtes augmente constamment. Quand on regarde dans le dernier recensement, quelle est la proportion parmi les couples qui comprennent un immigré ou bien un étranger, quelle est la proportion de couples mixtes? C'est 40%. C'est absolument énorme. En outre,
vous fait dire à vous et à votre camarade Emmanuel Todd qu'au fond, l'avenir est un avenir pacifique est plutôt assuré puisque ça se passe bien, quoi.
Bien sûr, mais vous savez, mais même le passé, l'idée, il y a une idée complètement fausse il existe à l'origine des groupes humains purs ou bien homogènes. Pas du tout. Depuis le fin fond de l'histoire, on s'est mélangé. On s'aperçoit même maintenant qu'il y a eu des mélanges entre les néandertaliens et les homo sapiens. Donc, ça nous mettrait loin. Donc là, il y a un mélange général. Et je crois effectivement, une chose qui est juste dans ce que dit Renaud Camus, c'est qu'il y a une France qui n'est pas encore touchée par ce mélange, c'est-à-dire qui, dans sa famille, n'a pas encore un cousin ou bien un frère ou bien un enfant qui s'est marié ou qui a fait un pax avec une personne venue de l'étranger. C'est cette France-là peut-être qui serait dit.
En tout cas, il traduit un sentiment que l'on retrouve chez les électeurs et les électrices du FN, le sentiment qu'on est dans une époque où l'immigration est une triple menace, une menace économique, ils prennent nos boulots, une menace culturelle, c'est une menace pour notre identité, pourquoi est-ce qu'ils ne se conforment pas à nos coutumes et à nos mœurs, et une menace politique, c'est une atteinte à la souveraineté nationale. Et aussi, parce qu'on est en période de crise économique quand même, donc on est chaque fois
là,
qu'il y a eu une grande crise économique.
Et les cartes, évidemment, vont bientôt parler, nous avons le temps. Vous avez vu que Louison a frappé, si j'ose dire, elle a sonné. Louison.
Doucement.
Louison, le dessin.
Premier dessin. Donc reprenant cette information comme de la montée à partir de 2012, et donc j'ai repris ce fameux slogan de François Hollande qui n'avait peut-être pas pensé dans cette orientation-là. Donc sur le changement, c'est le changement aussi des chiffres et la montée du FN, voilà, qu'il n'avait pas
donc
forcément.
Donc on voit le président avec un air un peu affecté qui dit...
Un petit peu embêté même, avec sa petite goutte de sueur, et il dit c'était pas vraiment à ça que je pensais quand je disais le changement c'est maintenant.
Mais vous me faites là une transition sur un plateau, Louison. Écoutez donc, le 22 janvier 2012, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, proclame son célèbre discours du Bourget. On a retenu beaucoup l'ennemi c'est la finance. Souvenez-vous, Hervé Lebras, Nona Mayer, comment il évoquait le Front National.
Deux grandes dates ont marqué ma vie politique. L'une violente, le 21 avril 2002. Une blessure que je porte encore sur moi, j'en ai la trace. Ce soir terrible, où l'extrême droite, faute de vigilance et de lucidité face à la menace, face à la dispersion, met la gauche hors jeu et permet à la droite de s'installer pour 10 ans. J'en ai tiré toutes les leçons. Moi, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas les ouvriers, les employés aller vers une famille politique qui n'a jamais rien fait pour servir les intérêts de ces classes-là. Je ne laisserai pas un parti caricaturer les problèmes sans jamais apporter la moindre solution crédible. Je ne laisserai pas une formation politique se présenter comme la voix du peuple, alors qu'elle veut simplement se servir de lui.
Alors c'est raté ?
Oui, là c'est complètement raté, c'est pas la seule chose. C'est, ce qui est un peu injuste, c'est quand même, au fond, son passage à l'Élysée aura été vraisemblablement moins dur que s'il y avait eu un candidat de droite.
Nous revenons sur toutes ces questions avec vous et nous allons, dans cette deuxième partie des matins à 8h15, rentrer dans les cartes que publie le 1 et qu'a lu. Regardez attentivement Brice Couturier. Bonjour Brice.
Oui, bonjour, j'ai sur ma table. Oui, ma question pour vos invités, c'est la suivante. Marine Le Pen peut-elle donner voix et surtout apporter des réponses à des colères de nature bien différentes les unes des autres? Comment concilier en particulier le vote FN du Nord-Est avec celui du Sud-Est, qui semble inspiré par des frustrations de nature très différentes?
Voilà, le débat à 8h15. 15 et la demi-heure pour évoquer avec vous, Nona Mayer, Hervé Lebras, les cartes et les sujets, notamment aussi la question du vote des femmes, avec vous, Nona Mayer, abordée dans le 1, sorti hier dans tous les bons marchands de journaux, comme on dit. Vous écoutez France Culture et vous n'avez pas tort, il est 8h.